On est en train d'étudier une petite étude sur les commandements de Dieu, puis essayer de comprendre c'était quoi le message de Dieu quand le Seigneur il a dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il a dit ça, c'est les deux plus grands commandements. Puis de ces deux grands commandements-là découlent toutes les autres. Toute la loi est accrochée à ces deux commandements-là. Puis on est en train de regarder en détail ce que ça pourrait dire, le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Parce que on veut le mettre en pratique. Si on n'entend pas parler, puis on ne sait pas quoi faire, c'est quoi que Dieu veut dire par là, on va s'aimer, mais tu peux aimer puis quand même faire des mauvaises affaires qui déplaisent au Seigneur. L'amour, oui, c'est l'amour qui doit nous motiver. Mais il y a des choses que Dieu veut qu'on mette en pratique pour le démontrer, des choses que lui a déjà décidées dans sa parole. On est en train de faire un survol des commandements de Dieu. On a vu là-dedans que c'est important pour un chrétien. Il n'est pas sauvé parce qu'il met les commandements de Dieu en pratique. Il est sauvé par la foi en Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui nous sauve. Jésus a versé son sang. Puis son sang, c'est le sang de la nouvelle alliance qui nous assure le salut. Si on ne se lassera pas de le répéter, c'est quelque chose qu'il faut que ça nous rentre dans notre esprit et dans notre cœur. Mais une fois que t'as accepté Jésus comme ton sauveur, le Seigneur, il nous dit, si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. C'est une preuve à Dieu. Quand quelqu'un s'attache à Jésus pour être sauvé, c'est une preuve pour Dieu, une preuve que tu l'aimes parce que tu gardes sa parole. C'est ça qu'on veut développer comme idée. Il est important, pour y montrer qu'on l'aime, de garder ses commandements, mais aussi pour demeurer en lui. Parce que la communion avec Dieu persiste parce que nous obéissons à sa parole. Si quelqu'un dit « je prends le cadeau du pardon, mais je continue à faire ma vie comme je l'entends, je fais les péchés qui nous sont à faire un par derrière l'autre, la vie est remplie d'occasions de péchés contre Dieu », ben si tu marches dans ce chemin-là, tu gardes pas ta communion avec Dieu. C'est ça qui est important de comprendre. Aujourd'hui, on regarde le premier des commandements, le premier des 10 commandements. On va voir là-dedans comment Dieu nous appelle à nous consacrer uniquement à lui. Le premier des commandements, c'est un commandement de consécration, pour se consacrer à lui. Dans Exode, le chapitre 20, les versets 2 et 3, Dieu nous dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La première chose qu'on doit remarquer là-dedans, puis les gens vont dire, ouais, mais ça, c'était dans le temps du peuple juif, du peuple d'Israël, qui était en Égypte, puis était esclave en Égypte, puis Dieu les a sortis de là. Mais ça s'adresse encore à nous aujourd'hui parce que Dieu nous a sortis, nous aussi, de notre vie de servitude, de notre vie d'esclavage, puis de toutes les conséquences du péché. C'est le même Dieu qui a sorti le peuple d'Israël, v'là 3000 ans. C'est le même Dieu aujourd'hui qui délivre encore des gens de la servitude du péché, puis de l'esclavage du diable. Il nous libère parce que quand tu viens à Jésus, te pardonne de tes péchés, il te purifie ta vie par son sang. Tu es maintenant un élu, un sauvé. Il t'a appelé à faire partie de son royaume, puis à obtenir toutes ses promesses. Puis il t'a sorti des ténèbres, puis il t'a emmené dans son admirable lumière. Il t'a sorti du royaume de Satan, puis il t'a emmené dans le royaume de Dieu. Tu es maintenant entré. Tu vois le royaume. Tu es entré lorsque tu es né de nouveau. Fait que ce commandement-là s'adresse aussi à ceux qui ont passé par la nouvelle naissance. Il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Avez-vous quelqu'un qui est sorti de la servitude à cause du Seigneur? Mais ce Dieu-là est en train de nous parler aujourd'hui. Il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est comme si toute notre vie, lorsqu'on vit sur cette terre, nous sommes devant la face de Dieu. Dieu nous regarde, il nous voit aller. Puis en nous donnant cette parole-là, il est en train comme de nous dire, faites attention. Tu peux pas dire que tu m'aimes de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, de ta force, puis avoir d'autres dieux devant ma face. Je crois que Dieu veut une relation d'amour avec nous, basée sur une fidélité mutuelle. Il veut l'exclusivité de ce qu'on pourrait offrir comme amour à un Dieu. Il veut que notre amour, là, ce qui pourrait sortir pour un Dieu à quelque part, ça soit uniquement pour lui, le vrai Dieu qui nous a sortis de notre servitude. Il veut pas qu'on ait d'autres dieux devant sa face. C'est là que ça rejoint, dit dans Marc 12, 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras. Ça, c'est une relation d'amour qu'il veut développer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Il n'y a pas de place pour un autre Dieu là-dedans. Pour Dieu, lui, il nous aime. Il nous l'a déjà prouvé qu'il nous aimait. Il ne pouvait pas nous le prouver d'une manière plus grande que qu'est-ce qu'il a accompli en quittant son royaume. Dieu, quand je parle de Dieu, c'est Jésus aussi. Il a quitté son royaume, il a quitté sa gloire, il a quitté ce qu'il était adoré, là, des milliards d'anges se met à genoux devant lui, puis il se prosterne devant lui, puis il l'adore. Puis il a quitté sa gloire pour venir en forme humaine comme un simple bébé, puis il a commencé à naître parmi les hommes, il est né, puis il a grandi, puis il n'a pas cherché le luxe, puis les hautes glorioles de ce monde. Il est resté dans l'humilité, il a servi son Père, il a obéi à la parole de Dieu qui était écrite à cette époque-là dans la loi de Moïse. Il n'a pas commis un seul péché, puis il a accepté de mourir à la croix, prendre notre place. Parce que c'est nous qui devons mourir à cause de nos péchés. Il a pris notre place à la croix, puis il a décidé d'expier la conséquence de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis Jésus a accepté de payer la mort à notre place pour qu'on nous donne la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a dit, puis c'est ce qu'il a fait. Amen. Dans 1 Jean 4, 19, il dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est une fois que tu comprends l'amour de Dieu, puis tu t'aperçois comment Dieu nous aime à cause qu'il a payé la dette de nos péchés. Là, tu t'en aperçois et là, tu vas être capable de commencer à l'aimer. Dieu veut qu'on s'attache à lui de tout notre cœur, puis qu'on rejette tous les autres dieux. Parce que dans ce monde, il y en a plusieurs qui se présentent comme étant des dieux. Quand il dit dans le commandement, tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. C'est comme quand je disais tantôt, il veut l'exclusivité de notre amour. On ne peut pas se mettre en tant que chrétien à aimer deux dieux, trois dieux. Puis il y en a des millions, des milliers de dieux. Il y a des religions là, qui s'en ont fait des milliers de dieux. Puis, tu peux pas te mettre à aimer d'autres dieux quand tu sais que l'œuvre à Dieu t'a sorti de la servitude, puis il t'a sauvé, il t'a donné la vie éternelle, puis il t'a démontré son amour. Il s'attend à ce qu'en retour, qu'on vive pour lui, par lui, puis être qu'il soit le centre de notre vie. C'est comme une personne qui se marie avec quelqu'un qu'il aime, il aime sa femme, puis il déciderait de continuer à aller voir d'autres femmes en même temps. Ça se fait-tu? Pas du tout. Quand tu te maries, c'est l'exclusivité. Ta femme, c'est ta femme. C'est celle que tu dois aimer. Puis dans le plan de Dieu, c'est l'homme qui t'aura, son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Puis les deux deviendront une seule chair. Mais Dieu veut faire la même chose avec nous. C'est une relation, je dirais, même encore plus haute que l'homme et la femme. Parce que c'est une relation éternelle. L'autre est passagère pour notre vie terrestre. L'autre, c'est une relation de communion avec lui. Lui nous aime, puis nous, on l'aime, puis on n'a pas d'autre Dieu devant sa face. de peur d'être traité d'infidèle. Est-ce que la Bible reconnaît qu'il y a plusieurs dieux? Dans 1 Timothée 2,5, ça nous dit, « Car il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses, en fin de compte, un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Dans 1 Timothée 2,5. En réalité, il y en a juste un Dieu, créateur de toutes choses. Il n'y en a pas deux, là. Ils ne sont pas partagés la job entre deux dieux, là. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, puis un autre Dieu hindou ou un autre Dieu ailleurs qui sera partagé l'ouvrage, ou peut-être 5-6 dieux qui sont ensemble pour créer l'univers. Non. Il n'y a juste un vrai Dieu vivant, un Dieu vivant, créateur de toutes choses. Il s'est révélé, ce Dieu-là. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils ont d'autres dieux dans ce monde-là. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres gens qui font à croire qu'il y a d'autres dieux. Les gens ont l'imagination fertile. Mais la Bible a dit qu'il y en a juste un qui est vivant, puis qui est éternel, puis qui est créateur de toutes choses. Puis là, on se dit, est-ce que tous les dieux reviennent à la même chose? Quand tu parles d'un dieu à quelque part dans une religion, est-ce que ça équivaut au dieu de la Bible? Dans Isaïe 45, le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, là c'est Dieu qui va donner la réponse. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et l'a affermie. Puis il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Ça, c'est nous qui l'habite. Et je suis l'Éternel, puis il n'y en a point d'autre. Point d'autre. Point final. Il y a juste un seul Dieu, créateur de toutes choses, qui a créé l'univers, qui a créé le monde invisible, qui a créé le monde visible, puis il a créé la planète pour qu'elle soit habitée. Puis c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Puis il est en train de nous dire, « N'aie pas d'autre Dieu devant ma face. » Il n'y en a pas d'autre. Si tu veux t'attacher à Dieu, attache-toi au vrai Dieu qui a créé toute chose. C'est lui le Créateur. Amen. Les autres qui s'annoncent comme étant des dieux ou le Créateur sont des imposteurs. Toutes les religions qui annoncent un autre Dieu que le Dieu de la Bible sont des imposteurs, des faux dieux, qui n'existent pas, qui ne vivent pas, puis ils font rien dans leur vie. Ce n'est que de l'imagination, c'est le fruit de l'imagination humaine, puis ils sont inspirés par des esprits maléfiques qui veulent tromper le monde. Les gens sont spécialistes de la tromperie. Ils sont eux-mêmes aveuglés par le diable, puis après ça, ils prêchent leur fausseté, puis ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de servir une créature plutôt que le Créateur. Le Créateur a déjà parlé dans sa parole. Tout le reste qu'on peut avoir comme révélation, ça vient du faux. Oui, c'est des manifestations du monde invisible. Oui, dans les religions, il y a des manifestations de choses de l'invisible qu'on ne voit pas de nos yeux. Des miracles, pas avoir des miracles, des guérisons, pas avoir toutes sortes de signes qui se produisent. Mais s'ils ne sont pas produits en conformité avec les enseignements de la Bible, c'est du faux. C'est du toc, c'est une imitation du vrai. Dieu a déjà parlé, puis Dieu ne ment point. Puis sa parole va demeurer éternellement, puis tout ce qui est écrit là va s'accomplir tel que ça l'a été annoncé. Alléluia. Comment reconnaître le vrai Dieu? Bonne question. Il y a tellement de faux dieux, lequel est le vrai dans l'ensemble? Qui est le Dieu de la Bible? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Là, il y a tellement de versets qui parlent de toutes sortes qui parlent de ses attributs, qui parlent de ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, qui nous révèle des choses sur Dieu. On pourra pas voir tout cela dans un seul message. Mais il y a certains petits points que je vais vous donner comme indice, puis c'est des choses que je suis sûr que vous savez déjà, mais qui nous fait réaliser qu'on est avec le vrai. Mais ces points-là que je vais vous dire, c'est si ces points-là sont pas là, c'est pas le vrai. Je dis ça pour ceux qui écoutent le message puis qui veulent savoir est-ce qu'ils sont dans, avec le vrai Dieu. Premièrement, ce qu'on apprend, c'est que Dieu s'est révélé sous plusieurs noms dans la Bible. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, Dieu a parlé. Il y a plusieurs versets, je vais vous en nommer juste un passage dans Exode, le chapitre 3, les versets 14 et 15. Déjà, là, dans cela, il nous donne déjà trois noms. C'est pour ça que je peux pas faire le tour de tous les noms de Dieu, parce que Dieu s'est révélé dans toutes ses facettes. Quand il dit « Je suis le Tout-Puissant », c'est à cause de ce qu'il est, ses attributs. Il est l'Éternel, mais c'est à cause qu'il vit au siècle des siècles. Il n'y a pas de commencement, puis il n'y a pas de fin. Mais dans le passage que je vais vous lire, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse quand il y avait le buisson ardent. Là, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Il est celui qui est, qui était, qui est et qui vient, qui est toujours là. Dieu, il est éternel. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Il est là, il est éternel. » Puis on va voir qu'il se nomme même l'Éternel là-dedans. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël. » L'Éternel, il se nomme comme étant l'Éternel, il s'appelle l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est encore un autre nom qui a été nommé, puis qui a été répété dans le Nouveau Testament. Même dans le Nouveau, on l'appelle l'Éternel, on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Puis même Jésus, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », mais il référait que Jésus était là dans le buisson avec Moïse. Et il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Si on vous pose la question, quel Dieu vous servez? Mais je sers l'Éternel, le grand je suis. Je sers le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ouais, mais ça, c'était le Dieu du peuple d'Israël. Oui, c'est ce Dieu-là que je sers. C'est pas le Dieu des païens, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Il a choisi Abraham pour donner une descendance à Abraham. Il a dit, toutes les nations de la terre vont être bénies en ta descendance. Puis à nous, il nous dit qu'on est greffé à cette lignée-là. On est des descendants d'Abraham, spirituellement parlant. On fait partie du peuple de Dieu, l'Israël de Dieu. Amen. Quand on étudie pour apprendre à connaître des choses sur Dieu, parce que là, il y a plusieurs facettes, mais je vais y aller avec les plus importantes pour le moment. Il dit, il faut comprendre que notre Dieu s'est révélé en trois personnes. Trois personnes qui forment un seul Dieu. Trois êtres distincts qui peuvent se parler un l'autre. On voit ce dialogue-là dans l'Ancien Testament. Dieu dit, puis Dieu fit, puis après ça, tu vois dans Hébreu, il dit que Dieu parle à son Fils, puis il l'appelle Dieu, puis il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Bon, il y a tout. On voit en plusieurs passages dans l'Ancien et dans le Nouveau comme quoi que les trois sont là. Un verset, entre autres, quand Jésus a envoyé ses disciples baptiser les gens, dans Matthieu 28, le verset 19, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils puis du Saint-Esprit. » Quand tu baptises les gens, tu peux les baptiser au nom du Père, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, comme tu peux le baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Le Fils. Puis tu remarques dans les actes des apôtres, quand ils faisaient des baptêmes par la suite, ils baptisaient les gens dans le nom de Jésus. Mais quand tu baptises dans le nom de Jésus, on va le voir dans d'autres passages que je vais vous montrer, quand tu les baptises dans le nom de Jésus, tu es en train de les baptiser dans le nom de Dieu. Yeshua, là, Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu qui est fait homme. Fait que quand tu le baptises dans le nom du Seigneur, tu le baptises dans le nom de Dieu. On arrive dans le point qui est le plus mélangeant, le plus mélangé dans les religions. Quand on parle de Jésus, parce qu'il y en a déjà qui peuvent dire « Oh, là, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. » Mais il faut apprendre à connaître Dieu, notre Dieu, qui s'est révélé en trois êtres distincts. Quand que je dis trois êtres distincts, je le répète, il y en a qui ont donné un mot pour cela, ils appellent ça la Trinité, mais c'est pas écrit dans la Bible, la Trinité. Mais c'est l'idée du mot « tri », sont trois unités, Trinité, c'est qu'ils sont un. Il y a un seul Dieu, mais il y a trois êtres qui peuvent dire, le Père peut dire « Je suis Dieu », le Fils peut dire « Je suis Dieu », puis le Saint-Esprit peut dire « Je suis Dieu ». Les trois peuvent dire « Je ». Donc, il y a trois prénoms personnels qui peuvent parler en Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a trois personnes. Mais ce n'est pas des personnes humaines, c'est un seul Dieu qui est en esprit et qui remplit toutes choses, mais ils sont trois qui se parlent en eux, en un seul. C'est un peu compliqué pour notre petit cerveau, mais c'est quand même ça que la Bible enseigne comme révélation. Dieu le Père, lorsqu'on rentre dans d'autres détails, on va apprendre qui est le vrai Dieu, là. On ne veut pas avoir d'autres dieux devant nos yeux. On ne veut pas avoir d'autres dieux devant Dieu. Donc, c'est important de savoir qui est Dieu, le vrai Dieu, pour ne pas se faire tromper. Mais Dieu le Père, il s'est aussi révélé comme étant Yeshua le Messie. Jean chapitre 14, versets 9 à 11. Je vais vous lire quelques passages qui nous parlent que Yeshua, Jésus-Christ, est Dieu. Dans Jean 14, à partir du verset 9, Jésus lui dit, parce que là, Philippe est en train de dire à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus, il lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, puis tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, puis que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, puis le Père est en moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. » Quand Jésus était sur la terre, puis il se passait plein de guérisons, plein de miracles, la puissance de Dieu était à l'action, les démons sortaient, des personnes mortes qui ont été ressuscitées, il a fait la multiplication de pain, il a fait la pêche miraculeuse, il a marché sur l'eau. Des affaires que personne d'autre n'a faites dans toute l'histoire de la vie. Il y a juste Dieu le Père, Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui avait fait des miracles incroyables dans l'Antiquité, dans le temps de l'Ancien Testament, avec quand il a sorti le peuple juif de l'Égypte. Hey, la mer s'est retirée, puis il y avait un mur d'eau chaque bord. Puis le fond est à sec et on marchait à sec. C'est des miracles incroyables, mais il y a juste Dieu qui est capable de faire cela. Mais Jésus, il a prouvé que Dieu est en lui par les miracles qu'il a fait. Puis il dit, croyez au moins à cause de ces miracles-là. Le Père, il est en moi. Puis si tu me vois, tu vois le Père. Fait que la révélation qui est en train de se faire là, c'est que Dieu voulait nous montrer que quand tu vois le Fils, tu vois le Père. Le Fils est le Père. Le Père est en lui. Pendant un temps temporaire, il était un peu limité parce qu'il était dans un corps humain comme nous. Mais après sa résurrection, il a retrouvé la gloire qu'il avait auparavant auprès de Dieu. Puis il a toute puissance lui a été remise après sa résurrection. Il dit tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Il a maintenant réobtenu ce qu'il avait avant. Il a repris le fait d'être omniprésent comme qu'il était avant venir. Il a repris Il y a un verset dans Philippiens qui dit, il existait en forme de Dieu, mais il a repris la forme de Dieu après sa résurrection. Mais pendant un temps terrestre, il était limité dans un corps humain, mais Dieu était pleinement en lui, puis il se manifestait à travers lui. Jésus, il est venu pour nous présenter l'image du Père. Il a vécu la vie d'être le Père, puis c'était comme une image du Dieu invisible. Il était là pour nous présenter le Père, le vrai Dieu, le Dieu vivant. Dans Jésus de Nazareth est notre Dieu, puis il est le Créateur de toutes choses. Puis ça, il faut le savoir. C'est en lisant plusieurs passages qu'on s'aperçoit comment est-ce que Jésus, il était là avant qu'il vienne, puis il a créé toute la création. Dans Colossiens 1, on va aller lire ce passage-là. Colossiens 1, les versets 15 à 19. 15 à 17. Ça nous parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire, si Dieu vous laisse apparaître, là, mais regarde Jésus, puis tu vois une apparition de Dieu. Il est le premier-né de la création. Ça, c'est un passage que beaucoup de monde s'arrête. Hey, c'est le premier-né, donc il a été créé, donc il est une créature, donc il n'est pas le créateur. Mais le mot premier-né, le sens réel du mot, c'est le premier-né, c'est l'héritier. C'est ça que ça veut dire. C'est celui que toute chose devait lui revenir. Il est le premier de la famille. C'est dans ce sens-là. Mais il existait de toute éternité. Regardez les autres passages à partir du verset 16. Car en lui, en Jésus, en Yeshua, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles comme les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est là le premier-né que tout lui revient. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça, là, c'est des paroles profondes, quelque chose de rare. Quand tu commences à méditer ça, tu t'aperçois qu'il dit qu'il n'y a rien qui existe, que ce soit dans tout l'univers créé que tu vois. Nous autres, on ne voit pas la fin de cela. Mais ça dit qu'avant toute chose dans le monde visible, comme toute chose dans le monde invisible, parce que dans le monde invisible, il y a des milliards d'anges, il y a toutes sortes de d'espèces angéliques, il y a tous les modèles. Puis, sans compter le ciel, le trône de Dieu, la ville sainte, tout ce que Dieu a créé, qui va subsister pour l'éternité. Mais il dit, avant toute chose, avant que les choses invisibles, les choses visibles soient là, Jésus était là. C'est lui qui a créé toute chose, puis il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par lui. Puis ça nous dit dans le passage que tout a été créé en lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit que tu peux aller dans le monde physique comme dans le monde invisible. Il n'y a pas un endroit que tu peux aller que tu ne seras pas en Jésus. Même les temps de feu éternel est créé par Jésus. Puis c'est Jésus qui la maintient là. C'est à l'intérieur de Dieu. Il n'y a pas de vie possible en dehors du Dieu de la Bible. Puis il dit même, toute chose subsiste en lui. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui continue à être en existence sans que Dieu la maintienne en existence. Si Dieu arrêterait de penser à moi, là, ping, je disparaîtrais comme si j'aurais jamais existé. Parce que c'est lui qui maintient toutes nos cellules, qui nous forme, puis nous maintient en vie, puis qui fait tout le système. C'est lui qui maintient toute chose en subsistance. Tout ce qu'on voit là, c'est lui qui a créé cela, puis c'est lui qui maintient tout cela en existence. C'est fort. Puis ça dit que c'est Jésus. Dieu le Père a voulu que toute plénitude habite en lui. Il n'y a pas de commencement, puis il n'y a pas de fin de jour, que la Bible a dit. Il est éternel comme Dieu le Père est éternel. Le reste, c'est à suivre. On va comprendre, mais qu'on arrive là au bord. Parce que c'est quelque chose, ça, là. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça nous dit ça dans 1 Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, Yeshua, il est venu, puis il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si on a la vie éternelle, c'est parce qu'on est en Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable. On va apprendre à connaître qui est le vrai Dieu. Automatiquement, tu vas arriver à penser à Jésus. Comment savoir si nous sommes en communion avec le vrai Dieu? Parce que là, on apprend des choses qui est Dieu, que Dieu c'est aussi Jésus. J'aurais pu vous expliquer aussi que le Saint-Esprit aussi il est Dieu, mais ils sont trois. Mais je veux juste aller à l'essentiel pour le message aujourd'hui. Là, si tu veux savoir si tu es en communion avec le vrai Dieu, dans 1 Jean 2, 23, ça nous dit, « Si quelqu'un nie le Fils, il n'y a pas non plus le Père. » Tu veux discerner là, quelle religion, là, quel enseignement, quelle doctrine, quel groupement prêche sur le vrai Dieu? Première chose, faut que tu regardes, est-ce qu'il confesse le Fils ou est-ce qu'il nie le Fils? Dans 1 Jean 2, 23, ça nous dit, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. » Puis quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Tu veux savoir si t'es dans le vrai Dieu? Tu parles-tu de Jésus? T'as-tu mis Jésus le centre? Tu le nies-tu ou tu le confesses? Tu y crois-tu en son rôle à Jésus, qu'il est Dieu? Ça s'arrête pas là. Ça dépend ce que tu fais de Jésus pour savoir si tu es avec le vrai Dieu. Si tu as une religion qui inclut pas Jésus dans les enseignements, ils sont en train de le nier, c'est pas de Dieu, puis Dieu, il est pas là. Sortez de là, fuyez ça. Il faut qu'on mette Jésus le centre. Ce qu'on fait de Jésus, là, notre croyance est-tu sur Jésus? Puis le deuxième point qu'on regarde, ça dépend aussi de ce que tu pratiques dans ta vie. Pour savoir si tu es avec le vrai Dieu. Dans 2 Jean 1:9, ça dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voyez-vous, c'est bien plus loin que juste dire « Oui, je le sais que Jésus, c'est Dieu. » Faut aussi que tu demeures dans la doctrine de Jésus. Faut que tu le confesses, Jésus, puis il faut que tu demeures dans sa doctrine. Si tu demeures dans sa doctrine, tu as le Père et le Fils. Tu es en communion avec le Père et le Fils. Il dit dans d'autres mots, toutes les religions qui ne mettent pas Jésus comme centre, puis qui ne prêchent pas la doctrine de Jésus, sont Dieu n'est pas avec eux. C'est ça que ça veut dire. Lorsque tu crois au Fils, puis que tu gardes sa parole, mais Dieu demeure en toi, puis toi en lui. C'est pour ça qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ben c'est quoi ces commandements? C'est ça qu'on regarde tranquillement. Là. On regarde les grands commandements parce que Dieu nous parle, Jésus nous parle de les grands commandements puis les petits commandements. Mais on veut savoir c'est quoi. Il dit de garder ses commandements. Si tu l'aimes, tu veux garder ses commandements. Puis si tu veux demeurer en lui aussi, il faut que tu gardes ses commandements. Ça veut dire il y a une relation qui se développe avec Dieu en mettant Jésus au centre, en mettant la parole de Jésus dans notre cœur pour qu'on marche selon sa parole, parce qu'on veut y montrer qu'on est avec lui, puis qu'on croit en lui, puis qu'on l'aime, puis qu'on veut le suivre. Les religions qui copient le christianisme ont modifié le Dieu de la Bible. En le modifiant, ils renient Dieu, puis ils démontrent qu'ils ne croient pas en lui. Parce que Dieu a déjà donné sa révélation, c'est dans la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas connaître Dieu, tu vas connaître ce que Dieu a dit. Si tu commences à modifier ce qui est écrit là, tu es en train de dire que tu n'y crois pas à ce qu'il te dit. C'est simple comme ça. Puis tu es en train de refaire ta religion avec des ajouts, puis avec des retranchements de ce qui est déjà révélé dans la Bible. Ils ont modifié la Trinité en ajoutant d'autres intermédiaires. Quand tu inclus, par exemple, Marie comme étant cour et rédemptrice, puis te dire qu'elle est omniprésente, puis qu'elle peut répondre, puis sauver les gens qui la prient, tu es en train de dire que Marie fait partie de Dieu, qui sont plus trois, sont rendus quatre. C'est une fausse doctrine, c'est un autre Dieu devant sa face. Tu peux pas avoir d'autres intermédiaires. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur en Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, qui est aussi Dieu. Tu peux pas mettre un humain là-dedans. Ni Marie, ni aucun saint, ni aucun ange, ni aucune autre créature ne peut être intermédiaire en Dieu et nous. Y a-tu des amen des fois? Ils ont nié le Fils dans d'autres religions, en disant qu'il n'est pas Dieu. Il y a des religions, plein de religions. Il dit, « Ah oui, Jésus, c'est un prophète. » Ils le reconnaissent comme prophète, mais ils ne le reconnaissent pas comme étant Dieu, le créateur de toutes choses. Ils peuvent dire, « Ah, oh, c'est un archange qui s'est incarné », ou des idées comme cela. Il y a plein de religions qui renient le maître qui nous a rachetés. Puis il y en a d'autres religions qui ont nié le Saint-Esprit en disant qu'il n'est qu'une force ou qu'il n'existe pas. C'est juste un mot. Il y en a des religions, mon but c'est pas de nommer les religions, là j'aurais pu faire des listes, mais c'est pas ça le but. On n'aura pas d'autres dieux devant notre face. On veut servir le Dieu réel. Ce Dieu-là, il s'est révélé par Jésus, puis on veut suivre Jésus comme étant notre Dieu. Amen. Ils se font d'autres dieux devant la face du Dieu véritable, en modifiant les doctrines. Puis Jésus, c'est pour ça, pas pour rien que les apôtres ont dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Oui, peut-être qu'ils vivent des expériences spirituelles, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas juste Dieu sur la terre qui fait des miracles. Le diable aussi en fait. Puis la Bible, elle nous parle d'esprit séducteur puis de doctrine de démons. Il n'y a qu'un seul Dieu qui pardonne et qui sauve ceux qui ont la foi en lui. Dans Romains 3:30, ça dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Tout le monde, on va être justifié que par la foi en ce Dieu-là. Il y en a juste un. Ce Dieu-là nous dit de ne pas nous laisser attirer par d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Dieu, lui, quand il veut nous sauver, mais il dit, trompe-moi pas. Sois fidèle. Ta dévotion, là, rends-la juste à lui. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu l'adores lui seul. Jean est arrivé puis s'est mis à genoux devant l'ange qui montrait les révélations de l'Apocalypse. Il dit, « Lève-toi, je suis ton compagnon de service. » Il dit, « Adore Dieu. » Puis Jésus, mais tous les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu. Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas vous détourner du Dieu vivant. C'est ce que ça nous dit dans Hébreux 3:12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On sert le vrai Dieu, n'ayons pas d'autre Dieu, parce que quand la minute que tu commences à t'agenouiller devant un autre Dieu, prier un autre Dieu, tu es en train de te détourner du vrai Dieu. C'est pour ça que j'avertis, j'en parle assez régulièrement. Tu vas quelque part, mettons, dans un salon mortuaire, puis tu vois du monde, tu es en train de faire une prière à un autre Dieu. Embarque pas là-dedans, puis dis pas « Amen » à cela. S'il est en train de faire un « Je vous salue Marie » ou une prière à Allah ou une prière à d'autres choses, on n'écoute pas ça, puis on dit pas « Amen », puis on participe pas à cela. Parce que tu es en train d'avoir un autre Dieu dans ton vocabulaire. Tu es en train de prier un autre faux Dieu. Voyez-vous? Le dernier verset, « Demeurons en lui, afin que lorsqu'il reviendra, nous ne soyons pas éloignés de lui. » Dans 1 Jean 2, 28, c'est ce que ça nous dit. « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Amen.